France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Eh bien, aujourd'hui, on va parler de la pomme de terre, si vous le voulez bien.
Ah oui, ça, alors
dans le fond,
là,
c'est bien
français.
De chez nous, c'est bien français.
Consommée depuis 10 000 ans en Amérique du Sud, il a fallu attendre le 16e siècle pour que la patate débarque en Europe et devienne le tubercule le plus consommé au monde.
C'est quoi des patates?
Pommes de terre, idiot! En bouillie, en purée, en rondelle dans un ragoût.
Et maintenant, les pommes de terre sont cuites.
Voilà.
Je mange beaucoup de pommes de terre crues parce que je trouve que c'est bon, les pommes de terre. J'ai toujours mangé pommes de terre crues et je les goûte toujours crues. Parce que d'une variété à l'autre, le goût change. D'où la purée, on ne peut pas faire une purée avec n'importe quelle pomme de terre, elle n'aura pas le même goût.
Je sais pas vous, mais j'ai une patate, moi, ce matin.
Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous aussi, vous avez la patate ce matin, comme nous tous, autour du plateau dont on va déguster. Êtes-vous plutôt patate ou pomme de terre? Quel que soit votre bord, vous engloutissez, sachez-le, 52 kilos par an et par habitant de ce tubercule majuscule que nous aimons tous, pour son goût unique, pour sa polyvalence totale en cuisine et pour son prix supposé très bon marché, même si on va voir que la pomme de terre n'est pas à l'abri de la spéculation. Aujourd'hui, on cultive et on cuisine le légume préféré des Français avec nos deux invités, à commencer par Marie-Laure Fréchet. Bonjour.
Bonjour François Régis.
Une habituée du plateau dont on va déguster, vous nous venez du pays de la pomme de terre, hein ?
Effectivement.
C'est-à-dire ?
La terre à patates.
Les Hauts-de-Calais. Du Pas-de-Calais, absolument. Ville d'Arras, hein. Vous êtes vraiment d'Arras, plus précisément.
Exactement.
Et vous signez ce livre que j'ai à ma gauche, Le Grand Livre des Patates aux éditions Flammarion. Une encyclopédie culinaire qui fait vraiment le tour de la question avec les variétés, les techniques, les recettes, plein de conseils. Vraiment, il est formidable. Très bien illustré. Et comme pour chacun de vos livres que vous avez signés dans cette collection, rappelez-nous les titres précédents, Marie-Laure.
L'encyclopédie du pain maison, l'encyclopédie de la viennoiserie maison et l'encyclopédie de l'alimentation durable.
Et le prochain ?
Je ne sais pas, on y réfléchit, toujours avec la même équipe surtout.
Voilà, vous ne changez pas une équipe qui gagne, Valérie Lhomme à la photo, Bérangère Abraham pour les recettes et le stylisme, petites histoires et grandes recettes autour de la pomme de terre, vous nous avez apporté de la pomme de terre qui croustille, mais de la pomme de terre aussi bien moelleuse, on n'en dit
ça.
Pas plus, il y a deux très belles recettes à découvrir. La culture et le commerce de la pomme de terre, comment ça se passe en France, l'un des principaux producteurs d'Europe? C'est ce qu'on va voir avec Victor Ders, bonjour.
Bonjour François.
Vous êtes le responsable de production de la société Bernard, incontournable dans le secteur, une entreprise presque centenaire je crois.
Oui, 90 ans cette année.
Installé où ça?
À Gommiercourt exactement, mais un village de l'Artois, campagne arageoise.
On est à 30 minutes de chez vous Marie-Laure,
à
30
peu près,
minutes
oui,
d'Arras. Votre entreprise Victor Ders est spécialisée dans, attention, l'obtention des plants et des variétés de pommes de terre. Vous allez nous expliquer les coulisses de votre métier sur les nouvelles variétés, les problèmes agronomiques que pose la culture de la pomme de terre, l'impact du réchauffement climatique, le prix de la pomme de terre aussi, autant de sujets brûlants qu'on va aborder ensemble. Et puis dans la bande dont on va déguster, pour m'accompagner jusqu'à midi, je demande notre chroniqueuse vin Justine Knapp et notre chroniqueur cuisinier Jean-Baptiste Christol. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Justine.
Alors, j'ai avec moi une bouteille bouchonnée de Liège. Ce n'est pas du vin.
Ah.
La question du jour, comment fabriquer une bière au goût de chez soi?
Vous savez que c'est une grande passion, l'autre passion avec la pomme de terre de Marie-Laure Fréchet, vous tombez assez bien Justine. Jean?
Aujourd'hui je m'intéresse à la pomme de terre dans certaines spécialités auvergnates, et puisque l'aligot est presque impossible à faire chez soi, je suis revenu du Bourbonnais avec une recette de famille un peu plus facile, le pâté aux patates.
Le pâté aux patates, magnifique. Envoyez-nous, auditeurs et auditrices, vos questions sur la pomme de terre sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com ou sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter, et retrouver nos émissions en ligne avec tout leur contenu, adresses, chroniques, recettes, infos pratiques sur franceinter.fr, à la page on va déguster juste avant notre leçon de patatologie, direction Dijon pour une table coup de cœur.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Bonjour, bienvenue chez Monique à Dijon. Vous êtes trouvée au cœur de la ville historique dans la petite zone piétonne de la rue Amiral Roussin. Alors Monique, c'est un hommage à ma grand-mère qui était une femme qui aimait énormément recevoir les gens, et je pense que c'est avant tout ce sens de l'hospitalité qu'on voulait mettre en scène quand on a décidé de créer le restaurant en février 2022. Alors le lieu, je dirais que c'est un peu comme si c'était chez nous, dans un style assez épuré. Ma formation d'architecte, je pense, a un peu pris le dessus quand on a fait ce lieu. Du bois, de la banquette, quelques photos de famille, parce qu'on reste quand même dans le cercle familial. Monique, c'est une histoire de famille, donc c'est ça qu'on a envie de mettre en avant dans la salle, dans la cuisine et dans l'ambiance en fait.
Moi c'est Victor, je suis le mari de Clara, donc moi je suis derrière le bar, voilà, midi et soir, et je m'occupe aussi du vin, enfin voilà, le contact avec les vignerons, voilà. J'étais musicien avant, donc on est voilà, tous les deux en reconversion. Voilà, c'est vraiment une aventure en reconversion, voilà, post-Covid.
C'est chouette. Et alors, il y a un menu déjeuner, il y a une formule chaque jour.
Voilà, il y a une formule qui évolue tous les 15 jours en suivant les saisons. En ce moment, là, depuis aujourd'hui, on propose un salmorero, voilà, une soupe andalouse voilà, liée au pain ou des maquereaux marinés. Et puis en plat végétarien, un épeautre crémeux à la courgette avec des pâtissons rôtis ou une saucisse de veau voilà, de la ferme de Clavizy. Et en dessert, une panna cotta à l'estragon, figues, biscotti ou des mirabelles avec une glace au mililo et un sablé breton.
Avec beaucoup de produits locaux.
Ouais, on essaye parce que notre région est magnifique. Il faut mettre en valeur ces gens qui travaillent dur dans des conditions difficiles, surtout en ce moment avec le réchauffement climatique.
Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Je me suis proprement régalé chez Monique, ce nouveau bistrot de charme en plein centre de Dijon, la capitale de la Bourgogne, avec Clara Redet et Victor Blatrix à la manœuvre, et avec un menu entrée plat dessert à 25 €, ce qui est une performance avec la qualité des produits utilisés, tous issus d'une agriculture respectueuse et locale. Chez Monique, 33 rue Amiral Roussin, dans le centre piétonnier de Dijon. Alors c'est fermé le dimanche, ça réouvre demain soir lundi, mais attention, Monique part en vacances après un été bien chargé le 23 septembre prochain et elle revient nous régaler le jeudi 13 octobre. Et puis, parmi les tables qui comptent en cette rentrée, l'une d'elles attire mon attention, c'est celle que va ouvrir Ernest. Vous connaissez certainement cette association qu'on a maintes fois évoqué à ce micro et qui lutte contre la précarité alimentaire depuis 2015. Ouverture prévue le 1er octobre prochain, rue de Joinville, Paris 19e, dans un très beau lieu à deux pas du canal de l'Ourcq, qui leur servira à cuisiner avec les bénévoles les 500 repas hebdomadaires qu'ils distribuent ensuite aux personnes en situation de précarité. Mais Ernest prévoit aussi, et c'est ça la nouveauté, un bar et un restaurant durable et solidaire, en mode résidence de chef, avec produits locaux et bio, du vin nature, une programmation culturelle éclectique, et à chaque service, écoutez bien, 10 couverts seront réservés exclusivement aux personnes en insécurité alimentaire. Seulement voilà, l'association Ernest est en pleine campagne de financement, il a encore besoin d'un petit coup de pouce pour acquérir tout le matériel technique et la décoration pour rendre leur lieu fonctionnel et agréable. Si vous voulez faire un petit geste, ça se passe sur Hello Asso. On vous a mis le lien sur le site de l'émission Association Ernest. Et la solidarité alimentaire est d'ailleurs un sujet qu'on prendra à bras-le-corps dans notre émission du 29 octobre prochain. C'est Laurent Thomas qui réalise cette émission avec Théo de Labaudère. Fabrice Rivaud programme et prépare cette émission avec nous. La patate, après Nouveau Dinosaure, le titre de Séverin choisi par Djoubaka. Vous êtes bien sur France Inter.
Votre cola, avec ou sans patate?
Sans patate?
Non, non, sans rien du tout, pomme de terre.
Qui rêve encore de l'Amérique? Ce shopping mall pas démocratique. Tout est si différent maintenant. Mais qui peut encore rêver tout court? Tout est flippant aux alentours. Tout est si différent maintenant. En attendant, bien patiemment, la fin du monde. Quelle liberté d'être condamné après ces années de culpabilité. Agissons enfin sans conséquence. Salut patron, on se verra en vacances. Tout est si différent maintenant. En attendant, bien patiemment, la fin du monde. Patiemment, la fin. musée dans un décor. Et sur la pancarte en gros caractère, homme en terrasse buvant un verre et qui attend bien patiemment la fin de son air.
Je refuse de me nourrir de racines. Je ne suis ni un cochon, ni un indigène.
Mais tu ignores donc, malheureux, que ce précieux tubercule peut être cuisiné de 20 façons différentes et toutes plus délicieuses les unes que les autres, qui nous fournit généreusement non seulement de la farine, des fécules, des médicaments, mais encore une excellente eau de vie. T'es le roi Louis XVI lui-même, qui n'est pas un très bon politique, mais qui est un fin mangeur, eh bien il se nourrit exclusivement de pommes de terre.
Est-ce une racine pour les cochons ou un tubercule miracle? C'est le débat enflammé autour de la pomme de terre dans un film qu'on est tous en train de chercher. Hein,
non, je l'ai pas.
La Marseillaise de Jean Renoir, ah, 1938. Et cette scène montre à quel point la pomme de terre fut méprisée, autant qu'adulée, au cours de notre histoire. D'ailleurs, j'ai un peu l'impression que cette différence de point de vue sur la pomme de terre, elle s'exprime dans le choix des mots. Patate ou pomme de terre, patate étant un mot un peu péjoratif qui désignait ce légume de bouseux, alors que pomme de terre serait plus valorisant. Marie-Laure Fréchet, êtes-vous plutôt patate ou pomme de terre?
Définitivement patate.
Ah bon, voilà. En même temps, c'est comme ça que vous avez appelé votre livre.
Exactement, j'assume complètement ce mot patate. D'abord, historiquement parlant, parce que patate, ça vient de papa, qui est le nom originel de ce tubercule quand il arrive des Andes au XVIe siècle en Espagne. Et puis parce que pomme de terre, c'est une erreur botanique, en fait, botaniquement parlant, puisque pomme, ça vient de pomum en latin, qui veut dire le fruit. Et la pomme de terre n'est pas un fruit, c'est un tubercule, comme vous l'avez rappelé.
Donc pomme de terre sera presque une appellation abusive.
Complètement.
Victor Ders, plutôt team patate ou team pomme de terre?
Ouais, je suis de la team patate.
Ah ouais, bah d'ailleurs. Pourquoi?
Pour toutes les raisons que Marie-Laure vient d'évoquer, et parce que pour le prononcer souvent dans la journée, c'est plus pratique.
Quand on dit patate dans le nord de la France, il n'y a rien de péjoratif dans ce mot, mangeur de patates, on dit plus patate que pomme de terre.
On dit plus patate que pomme de terre.
On dit à patatier, par exemple, pour un producteur de pommes de terre.
Ah, et ben voilà, on s'approche justement de la production de pommes de terre, puisque la France produit tous les ans, écoutez bien quand même, hein, entre 5 et 6 millions de tonnes de ce tubercule, qui appartient, on va le rappeler, à la famille des Solanacées.
Tout à fait.
D'ailleurs, son nom latin, c'est...
Solanum tuberosum.
Et c'est donc un tubercule qui a pour cousine la tomate, l'aubergine, les piments, les poivrons. C'est
oui.
Ça, hein. Et la France est le deuxième producteur européen de pommes de terre, enfin, pardon, de patates.
Deuxième producteur.
Et nous sommes en pleine récolte en ce moment, vous le confirmez?
Oui, je le confirme.
Donc ça veut dire que ça a commencé quand et ça finit quand?
Ça a commencé un petit peu en retard, mais juste après le 15 août, dans les régions au nord de Paris.
Mm-hmm.
Parce que ça, les bassins plus précoces, maritimes notamment, peuvent récolter dès le mois de mai-juin.
Mm-hmm.
Et ça va se terminer, si tout va bien, vers la fin du mois d'octobre, pour les pommes de terre de transformation.
Et les Hauts-de-France représentent quand même les deux tiers de la production nationale. Autant vous dire qu'on est très, votre région est très concernée. Mais alors, rien ne va plus dans la production française si l'on en croit la Voix du Nord. C'est Marie-Laure Fréchet, en préparant cette émission, qui m'a envoyé par mail cette coupure de presse qui est parue il y a une semaine et qui avait pour titre « On est tous dégoûtés, les producteurs de plants de pommes de terre pensent à abandonner ». Que se passe-t-il dans votre métier de producteur de plants de pommes de terre? Et déjà, que signifie ce métier, en fait, Victor Ders?
Bon, je vais répondre à deux questions.
Mm-hmm.
Ce métier de producteur de plants de pommes de terre, c'est de proposer aux agriculteurs qui font des pommes de terre de consommation des semences de qualité qui peuvent leur apporter les meilleures récoltes. Ce qui se passe dans ce métier aujourd'hui, c'est que comme beaucoup de pans de l'agriculture, il est challengé de plusieurs côtés, mais deux forces très importantes. La première, c'est le réchauffement climatique que personne ne peut nier et qui a déjà des conséquences depuis plusieurs années. Conséquences sur les sécheresses de 2022,
mm-hmm.
Conséquences sur l'augmentation des parasites, notamment les pucerons, et la pression des maladies qui s'intensifie.
Ça, c'est directement lié au réchauffement climatique?
Oui.
En tout cas, c'est en évolution très forte. Mmh. Le deuxième challenge, c'est que la société nous demande d'être de plus en plus respectueux de l'environnement, et c'est plutôt une bonne chose. Mais pour faire face aux parasites que j'évoquais précédemment, ça crée pas mal de turbulences. Et le nerf de la guerre, dans ces situations-là, c'est l'économique. Et les producteurs de plants sont dégoûtés parce qu'ils ont le sentiment aujourd'hui de prendre beaucoup plus de risques qu'avant, pour les raisons que j'ai évoquées, mmh. et de ne pas être rémunérés à la hauteur. Donc c'est pour ça que certains envisagent d'arrêter.
Qu'est-ce qui se passe en fait concrètement ? Il y a ceux qui cultivent et produisent de la pomme de terre, et pour cultiver et produire de la pomme de terre aujourd'hui, il faut acheter des plants de pommes de terre. C'est-à-dire que quand on est producteur de pommes de terre, on multiplie pas soi-même sa pomme de terre. On l'achète à un obtenteur de plants comme vous.
Oui, c'est ça.
Un producteur de plants.
Un producteur de plants.
Pourquoi ?
Parce que c'est un tubercule qui est extrêmement sensible, mmh. et les montants engagés par les agriculteurs qui font des pommes de terre de consommation sont importants, et donc ils font appel à des professionnels de la semence certifiée, notamment, pour assurer leur récolte.
Marie-Laure Fréchet, vous êtes journaliste, vous avez côtoyé, notamment pour les besoins de votre livre, et vous n'avez pas attendu ce livre d'ailleurs, puisque vous êtes aussi passionnée de frites, l'univers de la pomme de terre, vous l'avez vraiment... appréhendé depuis quelques années. Exactement. Vous le ressentez, ce sentiment à la fois de frustration et de tension dans le milieu de la production de la pomme de terre en France, lié effectivement, comme le disait Victor Ders, au réchauffement climatique qui complexifie encore plus cette activité de production, et l'attente du consommateur d'une pomme de terre plus vertueuse, moins traitée par des produits phytosanitaires.
Oui, moi je vais me placer plutôt du point de vue du consommateur. Donc c'est vrai que le consommateur, lui, il veut pas que son panier change. Il veut toujours des belles pommes de terre, des variétés performantes. Mais effectivement, au bout de la chaîne, au début de la chaîne, il y a effectivement ce souci des producteurs. Et moi, c'est une grande découverte en faisant ce livre de voir cette complexité de la production. On a l'image d'une pomme de terre, finalement quelque chose d'assez robuste on la plante, ça pousse facilement, et non, c'est plus d'une dizaine de métiers. Obtenir une variété, par exemple, c'est 10 ans, il faut 10 ans pour obtenir une variété. Donc là, effectivement, on a, avec les enjeux climatiques, on a de nouvelles contraintes, et c'est dans 10 ans qu'on aura peut-être une variété plus performante, qui va lutter efficacement, qui aura besoin d'être moins arrosée et moins traitée. Donc voilà, c'est toute une ingénierie autour de la pomme de terre qu'on méconnaît complètement.
Justine Knapp.
Oui, et effectivement, sur la sensibilité de cette pomme de terre, mon compagnon, il est maraîcher bio, donc ils sont en pleine production en ce moment, et il y a une attaque de drosophiles assez violente, et en fait, il me rappelait la difficulté de cette production, alors qu'on pourrait se dire que c'est un produit plutôt simple, et vraiment, c'est un travail d'orfèvre, finalement.
Il y a un paradoxe, c'est à la fois un plant très rustique, on a l'image, vous savez, de la grand-mère qui mettait au compost des épluchures de pommes de terre qui finissaient par germer. Il y a un instinct de survie formidable de ce tubercule, ne serait-ce que cette culture miraculeuse de planter une pomme de terre et de se retrouver quelques mois plus tard avec des grappes de tubercule. Et en même temps, c'est effectivement un légume particulièrement fragile.
Tout à fait. Et c'est un légume aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, le plus consommé au monde. Donc il faut mettre en place des systèmes qui permettent d'assurer le fondamental de nos sociétés, de nourrir tout le monde.
C'est ça. Alors, la production de plants de pommes de terre, c'est l'un des métiers de la société Bernard que vous représentez. Mais comme le disait Marie-Laure Fréchet, vous travaillez également sur la sélection variétale. Vous essayez de trouver des variétés peut-être plus résistantes aux ravageurs et aux maladies.
Tout à fait. Donc on a aussi une station de recherche qui est destinée aux jardiniers amateurs et aux circuits courts. Mmh. Donc le maraîchage bio, pour nous, c'est un secteur très important.
Sachant que c'est 30% de votre activité, hein, la patate bio.
Le bio, oui. Le bio, depuis 20 ans, on est multiplicateur aussi de plants bio. Alors, c'est des métiers qui sont passionnants, qui prennent beaucoup de temps, c'est 10 ans minimum. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de jamais oublier que ça termine dans les assiettes. Et en plus de terminer dans les assiettes, il faut que les agriculteurs puissent cultiver sereinement, il faut qu'on puisse réduire la dépendance à tous les produits de traitement, que ce soit en végétation ou dans les stockages. Et donc, il faut regarder des critères de manière très fine, tester dans différents bassins de production et s'assurer que les variétés qui arrivent sur le marché soient adaptées au futur de la pomme de terre. Ce qui est très compliqué, c'est que pour apporter des réponses aujourd'hui, il fallait savoir il y a 10 ans de quoi on allait avoir besoin. Mm-hmm. Et on va pas refaire faire le film, mais il s'est passé un nombre de choses incroyables en 10 ans qui déstabilisent aujourd'hui beaucoup de systèmes. Et donc nous, notre métier, c'est de rester agile et d'y faire face.
Combien de nouvelles variétés de pommes de terre vous avez mis au point avec la société Bernard ?
Ah bah, ces 5 dernières années, c'est une par an.
Donc 5. 5.
Oui.
Et vous en avez quelques exemplaires sous votre micro, dans des assiettes. Elles sont toutes terreuses. Vous ne les avez pas lavées, c'est très bien. On en voit de formes et de couleurs différentes. Allez, un petit inventaire.
Eh ben, il y a les pommes de terre qui sont destinées à faire de la salade. Donc, la Jeannette est très adaptée à la culture précoce pour récolter de bonne heure. Et la Minette, qui est une variété très récente, plutôt adaptée à une longue conservation.
Et la Minette, c'est une histoire de famille, je crois savoir.
Oui, tout à fait. C'est le surnom de ma fille aînée.
Ah, carrément. Formidable.
Oui.
Votre fille, en grandissant, aura sa variété de pommes de terre.
Bah, Jeannette, c'est
tout
ma nièce.
Tout le monde n'a pas cette chance, quand même. Et Jeannette, c'est votre nièce.
C'est ça. Ouais.
C'est une longue tradition de nommer des pommes de terre avec des noms, d'abord des noms de femmes, parce que c'est vrai
c'est
que
vrai.
C'est souvent des noms féminins, des
exemple.
Noms flappeurs.
Charlotte, Anna.
Charlotte, Anna, etc. Et puis, ceux qui baptisent les pommes de terre, voilà, c'est souvent... Enfin, c'est l'histoire de la binge, c'est peut-être le moment de raconter de l'histoire de la binge.
La binge, parce que vous l'avez là, la binge,
oui,
ou pas,
bien,
Victor
bien.
Ders. Alors, la binge, c'est vrai que c'est la pomme de terre farineuse par excellence. Sachant que les catégories de pommes de terre, de la moins farineuse à la plus farineuse, ça fonctionne toujours.
Oui, tout à fait, ça fait partie des critères de sélection.
Donc il y a chair ferme, chair farineuse.
C'est ça.
En fonction de la teneur en amidon, c'est ça ?
Souvent, la teneur en amidon rend le tubercule plus farineux et adapté à des préparations pour faire des frites ou les purées, les potages.
Alors c'est vrai que la star... Des pommes de terre à chair farineuse, c'est effectivement la binge. Simplement, elle est en train de prendre un petit coup dans l'aile, Marie-Laure Fréchet, cette binge. Que se passe-t-il ?
Alors, je ne sais pas si elle prend un coup dans l'aile. Elle est ce qu'elle est, mais c'est vrai que grâce à la sélection variétale, on trouve aujourd'hui des variétés donc, de ce type de pommes de terre à chair farineuse qui vont être plus performantes au niveau agronomique. Donc, petit à petit, on va la conserver, j'imagine, parce que voilà, à titre de patrimoine de la pomme de terre, c'est intéressant.
Au nom de l'histoire, parce qu'elle a été inventée il y a un moment, quand même.
Alors, elle a été inventée fin 19e, elle vient de Hollande, et c'est une jolie petite histoire, parce que c'est un directeur d'école dont la passion était de sélectionner des variétés. Et donc, à chaque fois qu'il avait trouvé une nouvelle variété, il lui donnait le nom d'un de ses enfants. Et puis, un jour, il a trouvé cette variété qu'il aimait beaucoup, il avait épuisé tout le nom de ses enfants, et donc il a choisi le nom de sa meilleure élève, qui s'appelait Béatrice, et le surnom de Béatrice, donc on va dire la petite Béa, en néerlandais, ça donne la binge.
La binge, formidable. Ça, alors là, j'ignorais totalement cette anecdote. Elle figure d'ailleurs dans votre livre, parce que c'est ça qu'on apprécie dans votre encyclopédie, c'est qu'il y a à la fois évidemment beaucoup d'anecdotes historiques, mais également des recettes, un point sur les principales variétés. Vous confirmez, Victor Ders, que la binge, elle est quand même désormais concurrencée par d'autres patates à chair farineuse ?
Oui, alors le consommateur à choisir, il ira toujours vers la binge, mais la filière a de plus en plus de mal à la proposer de qualité sans prendre trop de risques. Donc le but du jeu, c'est de ramener des variétés nouvelles.
Et en l'occurrence, celle qui pourrait concurrencer la binge,
alors,
la plus performante que vous avez apportée, c'est quoi ?
Ah bah c'est l'étincelle.
Ah !
Qui produit des tubercules assez gros.
C'est celle-là, là ?
Oui, et qui, lors des dégustations qu'on peut faire, le consommateur ne distingue pas la différence entre une frite de binge et une frite d'étincelle. Donc pour nous, c'est le point de départ d'aller vérifier d'autres qualités agronomiques pour avoir un peu plus de rendement, utiliser un petit peu moins de traitement et conserver naturellement.
D'accord. Donc l'étincelle risque d'en faire en cuisine dans les prochaines années. Jean-Mata Christol.
Oui, je voulais rebondir tout à l'heure sur les noms et je me demandais s'il y avait un patatier qui avait appelé son fils ou sa fille BF15. Mais voilà, c'est purement secondaire.
Mais c'est vrai, c'est BF15, c'est moins romantique quand même.
Ouais, c'est vrai, c'est moins romantique. C'est une variété qui est aussi la vie dure, mais qui existe toujours.
Et je voulais en parler hors micro tout à l'heure de fritabilité. Et il y a une grande chaîne de fast-food aux États-Unis qui est connue.
Attendez, alors hors micro pour nos auditeurs, fritabilité.
Pardon. Alors la fritabilité, Marie-Laure.
C'est le critère d'une frite à être apte à être frite.
D'accord.
Justement. Voilà.
D'accord.
Enfin, d'une pomme de terre, pardon, à être frite.
Et donc une grande chaîne de fast-food aux États-Unis qui a opéré une espèce de monopole sur une certaine variété de pommes de de terre qui fait des pommes de terre très très longues pour pouvoir tenir dans leur cornet sur place, et donc avec une espèce de ce que vous soulignez tout à l'heure, une espèce de problème sur la diversité des variétés, parce que 70% des pommes de terre cultivées aux États-Unis le sont pour cette chaîne de fast-food, pour avoir des frites très longues avec tous les problèmes phytosanitaires que ça comporte.
Vous connaissez cette pomme de terre, cette frite sauvage en quelque sorte ?
Alors le nom de la variété je ne l'ai pas, mais on retrouve le même principe dans notre filière de pommes de terre où les frites industrielles aujourd'hui représentent la majeure partie du marché, et effectivement on se soucie plus de savoir si ça correspond à la taille du cornet de frites, si ça rentre dans les process industriels, de si ça plaît aux consommateurs, parce que on va dire que on peut pas tout avoir, et c'est là que notre métier nous devient intéressant, c'est que on se positionne sur le marché des jardiniers amateurs et des circuits courts pour avoir des pommes de terre qui puissent apporter d'autres réponses que la frite dans un cornet.
Combien de patates au catalogue en termes de variétés chez Bernard ?
Chez Bernard, on en a une vingtaine.
Très bien. Alors, Marie-Laure, fais-je une première recette quand même. On va saliver aussi dans cette émission. Vive la pomme de terre. Quelle variété de pomme de terre utilisez-vous pour ce drôle de bun, de pain, de brioche ? Je ne sais pas comment il faut l'appeler.
Alors, j'utilise une variété de pommes de terre à purée, donc à chair farineuse.
Donc, voilà. Ça pourrait être la binge, par exemple.
Ça pourrait être la binge, voilà. Là, en l'occurrence, je ne sais plus ce que c'était. Je crois que c'était de la grilla. Voilà, donc c'est un petit pain à la pomme de terre.
À la pomme de terre, ça alors ?
En fait, c'est moitié pomme de terre, moitié farine. Alors pourquoi de la pomme de terre ? Parce que la pomme de terre, elle est riche en amidon, mais elle est surtout riche en eau. C'est 80% d'eau dans la pomme de terre.
D'où le moelleux,
voilà. Donc grâce à l'amidon, elle fixe cette eau et ça nous donne quelque chose de très moelleux. Et puis la pomme de terre, elle est aussi sucrée. Donc ça alimente la fermentation.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Un petit côté brioché.
Incroyable.
Excellent.
Et c'est fou à quel point ça conserve l'humidité, parce que vous m'avez dit que vous les avez réalisés hier, et là c'est incroyable, on a l'impression qu'ils sortent à peine du four.
Comment on s'y prend ?
Très simplement, c'est une pâte à pain, tout simplement, sauf qu'on remplace la moitié de la farine par de la pomme de terre en purée.
Donc une pomme de terre qu'on a préalablement cuite, et une purée sans beurre ni rien, juste la chair de
la
pomme de terre.
Alors on va la lier avec un œuf, parce que bon, comme c'est le principe d'un pain un peu brioché, on va la lier avec un œuf, un petit peu de lait, donc c'est assez étonnant, on rajoute très très peu de liquide, parce que ce liquide il est déjà contenu dans la pomme de terre, et puis après évidemment de la levure.
Levure fraîche. Combien de temps de fermentation ?
Deux fois une heure.
Bah donc c'est
voilà, et là moi je les ai façonnés en petits buns, mais on peut faire une couronne, on peut faire...
Voilà une recette du dimanche après-midi.
Exactement.
À faire avec ses enfants.
C'est très bon, avec un peu de beurre salé, c'est excellent.
La recette sur franceinter.fr, à la page on va déguster. Jean ?
Oui, c'est délicieux, et je me disais que c'était sûrement adaptable en plein de façons différentes, en sucré ou en salé, parce que c'est le goût qui est très bon reste relativement neutre, et à mon avis, on doit pouvoir faire ça de plein de façons différentes.
Et juste une petite précision, enfin, le premier qui a fait la promotion du pain de pommes de terre, c'est aussi Parmentier.
Voilà, on n'allait pas faire une émission sur la pomme de terre.
Il a écrit quand même tout un livre sur le pain de pomme de terre, donc il faut quand même
Sauf que je crois qu'il n'a jamais vraiment réussi avec ses essais de pain à la pomme de terre, parce que l'idée de Parmentier, c'était de promouvoir effectivement la pomme de terre, notamment en cas de pénurie de céréales, proposer une alternative au blé, finalement.
Voilà, il a gagné un prix de l'innovation, en fait, en 1777. L'Académie de Besançon, qui avait des gros soucis de récolte de blé, a lancé un concours, et il a présenté la pomme de terre qui, voilà, à l'époque, était accusée de tous les torts d'amener la lèpre. Enfin, voilà, c'était très, très, très peu utilisé. Et il a gagné ce concours. Et donc, dans la foulée, il a sorti un livre, parce qu'en fait, c'était pas un cuisinier, c'était un pharmacien Parmentier. Donc, il s'est risqué pas trop à la cuisiner et il a proposé ce livre pour faire du pain de pommes de terre. Mais effectivement, ça n'a pas très bien marché. Il a eu plus de succès avec son livre sur le levain, justement.
Ah, c'est drôle. Et Parmentier, évidemment, alors là, je m'adresse aux cuisiniers professionnels, Jean, c'est effectivement le terme désormais qui qualifie tous les apprêts à base de pommes de terre dans notre répertoire culinaire, même si, attention, ce n'est pas Parmentier qui a inventé le hachis Parmentier, par exemple, mais les préparations parmentières.
Oui, par exemple, on parle de potage Parmentier quand on est sur une base de pommes de terre poireaux, donc voilà, et après, le hachis Parmentier qui est, même si c'est une recette domestique, elle est faite un petit peu en l'honneur de Parmentier. Mais après, toutes les préparations à base de pommes de terre, localement, vont changer de nom en fonction, on en reparlera tout à l'heure, des langues régionales et de la façon dont on va appeler les patates ou les pommes de terre.
On va faire justement un petit tour de France avec vous, Jean et Marie-Laure, dans la deuxième partie de cette émission, et notamment en Auvergne. Du pain à la patate, délicieux, bravo. La recette sur notre site, on va passer à un genre de pain liquide, de la bière, dans nos verres, grâce à Justine Knapp.
On va déguster
sur France Inter.
Et on dirait qu'elle ouvre une bouteille de champagne.
J'essaye.
Ah, quand même. Ah oui, c'est carrément.
On y va. On va voir si ça se tient dans la bouteille.
Ah oui, en direct. Bravo.
Joli.
Le bruit salvateur, superbe. Et c'est de la bière. Alors ça, on est stupéfait. Des frites et de la bière, hein, c'est ça, promesse du jour.
Voilà, tel que c'est rangé dans ma tête, pommes de terre égale frites égale bière. J'ai donc apporté une bière acide, vineuse. C'est mon coup de cœur de l'été, plutôt septentrional le coup de cœur. Alors là, si vous goûtez une petite gorgée, les verres sont en train d'être servis, comme ça, sans trop réfléchir de quel pays, de quelle région pourrait venir cette bière.
Marie-Laure, allez-y, vous qui adorez la bière. Un côté effectivement un peu acide, presque vin de céréales, fermentation naturelle, j'imagine. Moi, j'irais du côté de la Belgique.
Oui, ça évoque le lambic.
Oui, c'est ça. Parfait. On est d'accord, plutôt la Belgique.
Belgique, c'est exactement la réponse que j'espérais.
On est bon quand même. Hein.
J'ai un peu orienté en ce sens, je le concède, mais cette bière n'est pas belge.
Oh là là, je rêve. Ah oui, d'accord.
pas de frites à la graisse de bœuf dans les parages. On se contentera de la bière, mais vous allez voir que ça vaut le coup. Cette bière, elle vient du Jura. Mais oui, elle a un lien avec la Belgique. Elle s'inspire du travail de la brasserie Cantillon, mythique brasserie bruxelloise, mythique pour ses lambics.
Vous connaissez bien
Oui, je connais bien sûr.
Les lambics, on le rappelle, ce sont des bières donc belges qui tirent leur acidité et leur complexité d'une longue fermentation en barrique. Un ami à moi au Palais Vierge s'est étonné à sa première. Je n'ai pas l'impression de boire de la bière. Et c'est vrai, on dit des lambics qu'elles sont le chaînon manquant. Exactement. Entre la bière et le vin. Et c'est justement l'ambition du brasseur à l'ordre du jour, faire le lien entre la bière et le vin. Lui a 25 ans, formation d'œnologue, ex-stagiaire de la brasserie Cantillon. Ses parents sont des vignerons phares du Jura. Le brasseur en question, c'est Aymeric Tissot,
ah bah oui,
qui vient tout juste d'ouvrir sa brasserie en juillet à Besançon.
Bénédicte et Stéphane Tissot, évidemment, ces émérites vignerons du Jura, dont on adore les cuvées.
On adore, et il se trouve que c'est un avantage énorme, parce que Aymeric Tissot peut fabriquer une bière au goût de chez lui. Je m'explique, la fabrication de sa bière est intimement liée à la production de vin de ses parents, donc sans vin, pas de bière. Dans la cave des parents, quand le chardonnay est prêt, il est tiré de la barrique. Aymeric récupère ses barriques, il y verse directement son moût de bière. Et dans le fond, il reste les lies du vin, les levures et les bactéries qui l'ont fait fermenter. Elles se réveillent pour une nouvelle fermentation, celle de la bière.
Donc si je comprends bien, Justine, c'est comme s'il utilisait un levain pour faire son pain.
Voilà, c'est le même principe. Enfin, c'est le même principe que les levures indigènes dans le vin. Laisser les levures présentes sur place faire leur boulot. Et dans le monde de la bière, c'est une démarche rare. Hein. Les brasseries achètent plutôt des levures prêtes à l'emploi, sélectionnées en laboratoire, qui donnent un goût défini. Concrètement, ça veut dire que je peux boire une bière locale bretonne et une bière locale alsacienne au goût très proche. Plusieurs brasseries utilisent aussi le même malt, le même houblon. Pourquoi ? Parce que les malteries artisanales sont rares en France et le houblon est à peine cultivé, et bien surtout d'Allemagne ou des États-Unis.
Donc les levures maison, ce serait un pas vers des bières finalement plus identifiables, plus singulières.
Oui, c'est sûr que ces levures et ces bactéries génèrent une typicité gustative liée au territoire. Elles sont présentes dans l'air, sur les plantes de cueillette, sur les fruits, dans les résidus de fabrication du vin ou dans les barriques des voisins. Et c'est là l'avantage français d'avoir autant de vignerons et de vigneronnes autour de soi. Des alliés tout trouvés pour aller glaner un peu de terroir.
Un peu de vie et un peu de bactéries.
Une quinzaine de brasseries en France s'y tentent, hein, c'est presque anecdotique. On peut citer la brasserie La Montagnard en Savoie, La Malpolon dans l'Hérault, la brasserie des Voirons en Haute-Savoie. Je vous ai mis une liste non exhaustive sur le site de l'émission. Pour l'heure, on goûte la bière d'Aymeric Tissot, céréales locales bio, macérées avec des coins d'arbres plantés dans les vignes familiales et jurassiennes. Travaillées selon l'astuce apprise chez Cantillon, laisser mûrir en cagette les coins à leur apogée juste avant la pourriture, broyer, ajouter tout de suite à la bière.
Vous le sentiez ou pas le coin,
Il y avait
Victor?
Un goût de fruit, oui.
Goût de fruit?
On sent bien le fruit.
Vous aimez?
J'aime beaucoup. Et j'ai l'impression au nez d'avoir un vin nature. Et au goût, une bière.
Oui, c'est ça. Bon, la bière à la pomme de terre, ça existe ou pas?
Je ne connais pas encore.
Il faut se lancer.
C'est plutôt de la vodka, non?
Oui, c'est ça. Vous aimez ou pas, Marie-Laure, cette bière spontanée?
Évidemment, une belle acidité. Et on sent quand même le... Enfin, ça sent un peu le levain au nez, justement.
Mmh. Oui. Et moi, j'aime beaucoup le toucher de bouche aussi. Mmh. Je le trouve très agréable.
Et oui, il y a une grande précision dans cette bière. On a le coin entier en bouche. On le visualise. On pourrait presque toucher mentalement sa peau duveteuse. L'acidité est profonde. Elle donne une grande perspective à cette bière. Et moi, j'aime bien le contraste entre la rondeur du fruit, ses parfums de rose, sans la sensation sucrante, et puis cette bouche sèche, épicée, oui, quasi salée.
Saline, il y a du salin.
On slèche les babines indéfiniment, et le coin reste chaque gorgée. C'est l'anti-frustration. Et la finesse, les arômes, la complexité, ça vient de la barrique. Elle n'apporte pas seulement le dernier coup de pinceau à une bière déjà finie. La bière évolue avec elle pendant 3-6 mois, c'est la nuance.
Et alors le prix ?
Eh bien, le prix, c'est 12 euros. Une grande bouteille à partager, format bouteille de vin.
Ouais.
Toutes les cuvées coûtent entre 9 et 12 euros. À boire aux brasseries, au bar de la brasserie à Besançon, brasserie Levain, L-E-V-A-I-N.
Eh bien, évidemment.
Et notons que la méthode d'Emeric Tissot, elle crée une saisonnalité des bières calée sur les récoltes de fruits, sur le rythme viticole. Il faudra donc attendre pour goûter le nouveau millésime de cette bière au coin. Les fruits de l'année seront cueillis seulement le mois prochain. Pour calmer la soif en attendant, une bière à la Reine des Prés et Mélisse est attendue fin septembre.
Ah là là, c'est tout à fait réjouissant, ces bières de la Brasserie Levain. Bravo au jeune Emeric Tissot, dont on va continuer à suivre le travail. Merci beaucoup, Justine Knapp.
Avec
on
plaisir.
On va continuer à siroter, évidemment,
oui, bien sûr, hein,
cette petite bière au fil de l'émission. Alors, on poursuit dans un instant notre voyage dans le monde passionnant, mais aussi turbulent, on l'a vu, de la pomme de terre. Universe de Roisin Murphy, une artiste originaire d'Irlande. Tiens, un pays qui d'ailleurs a une relation proche et en même temps assez terrible avec la pomme de terre, Marie-Laure Fréchet.
Oui, effectivement, l'Irlande avait tout misé sur la pomme de terre, justement, on parlait des disettes tout à l'heure, et puis elle a eu cette grande épidémie de mildiou, puisqu'à l'époque on n'avait pas de traitement, et donc grande famine, et ça a notamment entraîné l'émigration de nombreux Irlandais aux États-Unis.
La grande famine d'Irlande, à partir de 1845 jusqu'en 1840, 52, 1 million de morts quand même. Hein. C'est vraiment un épisode terrible de l'histoire. La patate, c'est notre menu du jour.
On va déguster. Sur France Inter.
Il y a plein de réactions d'auditeurs et d'auditrices sur nos réseaux sociaux et sur le mail de l'émission. À commencer par une question qui revient beaucoup. La pomme de terre ou la patate est-elle un légume de saison ? C'est vrai qu'on parle de pommes de terre de conservation, mais il existe en même temps des pommes de terre de saison. Expliquez-nous, Victor Ders.
On distingue dans la pomme de terre les pommes de terre nouvelles, aussi appelées pommes de terre primeurs, et les pommes de terre de conservation. Alors les pommes de terre primeurs ne se conserveront pas. Mm-hmm. Elles sont très bonnes quand elles sont mangées tout juste récoltées.
Ça se passe plutôt au printemps.
Ça se passe plutôt au printemps dans les zones avec un climat plus tempéré au bord de mer souvent.
Donc Noirmoutier, Île-de-Ré, des terrains sableux, sablonneux.
Les côtes bretonnes et jusqu'à la baie de Somme, ils arrivent à proposer des pommes de terre qui ont plutôt une saisonnalité.
La rade du Touquet ?
La rade du Touquet, c'est plutôt de la conservation.
Oui, parce que c'est vrai qu'on la trouve tout le temps sur les étals en fait, hein,
tout
la rade
à fait.
Du Touquet.
Oui.
Et la pomme de terre de conservation, c'est une pomme de terre que l'on récolte comme en ce moment, hein, entre mi-août et octobre.
Tout à fait.
Et qui se conserve tout au long de l'année.
Qui se conserve tout au long de l'année quand on la met dans des conditions adaptées, notamment des frigos à température régulée.
Ah, ben justement, il y a une question pour Marie-Laure Fréchet directement liée à cette conservation. Question de nos auditeurs aussi, pourquoi les frites sont parfois plus dorées, voire carrément brunes ? Fritabilité.
Voilà, donc on a parlé du critère de fritabilité. Donc la fritabilité, ça commence au moment du choix de la variété. Une variété donc adaptée qui sera suffisamment farineuse. Ça dépend aussi donc de la maturité, c'est-à-dire du moment où on va la récolter, parce qu'on la récolte au moment où le taux de sucre naturel conservé dans la pomme de terre, parce que le sucre, c'est l'énergie qui permet à la plante de pousser, donc va être le moins important possible. Mais en même temps, il en faut un petit peu, parce que sinon vous auriez des frites blanches. Et puis, en fait, ce sucre, il va aussi, la pomme de terre va, enfin en tout cas le tubercule, va refaire du sucre au fur et à mesure de sa conservation.
Ah, aidé par le froid.
Alors aidé par le froid, c'est-à-dire que plus on la conserve au froid et plus elle va développer de sucre, mais en même temps, si on ne baisse pas la température, elle va avoir tendance à germer. Et aussi dans la durée, naturellement, elle va recréer du sucre, retransformer donc son amidon en sucre. C'est un phénomène naturel parce que la pomme de terre, en vieillissant, elle prépare sa germination. Et pour germer, elle a besoin d'énergie.
Donc ça veut dire qu'une pomme de terre de conservation fera des frites peut-être plus foncées en fin de saison, vers le mois de mai ou juin ou juillet, qu'en début de saison, vers novembre ou décembre.
Tout à fait. Mais c'est là où le choix des variétés est fondamental.
Donc en fait, il ne faut pas manger de frites en été.
Alors là, on aurait tort de s'en priver. Justine, une question ?
Alors là, on a peut-être une question variété. Dans ma jeunesse, il y a très longtemps, les pommes de terre avaient du goût. Ça, c'est Pascal qui nous dit ça. Maintenant, elles sont sucrées ou fades. De plus, on trouve très peu de variétés différentes, notamment en supermarché. Peut-on encore retrouver les émotions gustatives de son enfance grâce à la pomme de terre ?
Victor Ders.
Alors j'aime beaucoup cette question parce que la pomme de terre est faite d'émotions et, et nourrit beaucoup de débats. Et le goût des pommes de terre est central. Et ce que aujourd'hui, parfois, on a les réponses sous les yeux et on ne les voit plus. Mais il est évident que pour nourrir tout le monde, on a mis en place des systèmes de production qui produisent beaucoup de quantité. Et la pomme de terre peut-être être plus neutre en goût dans ces conditions-là. Mais les témoignages qu'on a de l'agriculture en circuit court ou de l'agriculture du potager montrent qu'on peut encore retrouver ce fameux goût de pomme de terre.
On a tous quelque chose en nous de la pomme de terre, justement, hein, un souvenir gourmand, une recette de famille, voilà, notre discussion en est la preuve. Il y a même, du côté de chez Jean, un beau souvenir de famille, et ça se passe plutôt du côté de l'Auvergne.
On va déguster. Sur France Inter.
Si vous avez osé faire du tourisme en Auvergne, pour faire de la randonnée, voir des églises romanes, aller manger dans un buron, cacher du Cantal, vous avez peut-être croisé dans une boutique de souvenirs la reproduction d'un fameux panneau de signalisation qui indique « Ici commence l'Auvergne, ici finit la France ». Il s'agit à la base d'une pochade d'étudiants qui ont été vissés en 44, ce fameux panneau sur celui du col Saint-Thomas, qui se trouve à la jonction des départements de la Loire et du Puy-de-Dôme. Blague à part, les contours géographiques de l'Auvergne sont parfois compliqués à déterminer, même pour les locaux. Un peu entre la Limagne et la Planèse, à la fois constituée du massif central mais délimitée par les monts du Forêt, l'Auvergne souffre de ne pas être bordée par un grand lac, arrêté par une mer ou un océan, ou traversée par un grand fleuve mémorable. Il est donc assez normal que, comme la plupart des régions françaises par ailleurs, l'identité régionale se soit constituée grâce, d'une part, à ses langues régionales...
Et d'autre part, à ses spécialités culinaires.
Et oui, de la même façon que le Rösti-Graben, la barrière des Rösti, désigne un fossé culturel entre ceux des Suisses alémaniques et des Romans qui mangent ou ne mangent pas de Rösti, on peut dire qu'on sait qu'on arrive ou qu'on repart d'Auvergne grâce aux plats locaux qu'on y déguste, et grâce à l'intendant d'Auvergne, Daniel-Charles Truden, qui y a, on suppose, introduit la pomme de terre. On peut mettre de côté ainsi les spécialités à base de choux et de noix, pour parler plutôt des plats à base de pommes de terre, que vous connaissez déjà, alors je vous écoute, des plats à base de pommes de terre qui viendraient d'Auvergne.
Oh bah la Ligo quand même.
La Ligo, oui. Et puis
la Ligo.
La truffade.
La truffade.
Qui est un peu une cousine de la Ligo.
Oui, une cousine éloignée, pas tout à fait pareil. Le retortilla également.
Ah, la râpée, comment on dit
La râpée, alors ça c'est le paillasson. Nous on appelle ça le paillasson de pommes de terre, mais en Ardèche on appelle ça le...
La crique.
La crique, voilà, la crique ardéchoise. Donc vous avez compris, si vous avez des patates, du lard et ou du fromage, vous êtes au bon endroit.
Et alors, c'est quoi cette histoire de pâté aux patates? Alors, on l'a sous les yeux, il fait rudement envie.
Pâté aux patates qu'on retrouve dans le très exhaustif atlas des plats de patates dans le livre de Marie-Laure Fréchet, sous l'appellation notamment de pâté creusois, qui pour moi, par chauvinisme ou par habitude, est seulement bourbonnais, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment auvergnat, d'après les vrais auvergnats qui appellent les bourbonnais les barbanas. Enfin bon, il y a toute une histoire comme ça, c'est la guerre. C'est un peu notre barrière des rejetis, puisque du côté bourbonnais, on enveloppe des pommes de terre dans de la pâte et on cuit le tout comme une tourte avec beaucoup de crème, alors que du côté auvergnat, on ne s'embarrasse pas de cette fantaisie pâtissière et les combinaisons les plus évidentes sont toujours lard et patate ou patate et fromage, et si la maison est bien pourvue, lard, patate et fromage. Et c'est bien volontairement que je vous parle de pâtisserie, car la recette que je vous livre aujourd'hui est une adaptation libre des pâtés que faisait quand j'étais petit mon grand-père pâtissier et mon oncle après lui. Voilà, c'est ce que je vous ai apporté aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de la pâte qui est quand même le plus important dans cette recette.
Oh, c'est bon.
Qui est une pâte au sein doux, donc à la graisse de porc. Vous voyez qu'on reste toujours quand même en Auvergne. Il n'y a pas de lard, mais il y a de sein doux. Les recettes seront bien sûr sur le site, mais pour faire rapidement, pour la pâte, on mélange du sein doux, de la farine, de la levure fraîche, des œufs et du sel, ce qui nous rappelle un petit peu notre pain de tout à l'heure, puisqu'on est vraiment sur une base de presque de pain.
Pâte levée, donc c'est
une pâte levée. C'est une pâte qui est pas tout à fait légèrement levée, qui va lever ensuite en cuisson. Et la garniture, c'est des pommes de terre qu'on fait mariner au préalable dans du vin blanc avec les oignons. Alors j'ai fait deux fois cette recette, une fois pour la photo sur le site et une fois pour vous la porter aujourd'hui. Et entre temps, j'ai eu mon père véhément au téléphone me disant attention, n'oublie pas de mettre les patates dans le vin blanc. Et j'ai vu les différences entre le premier et le deuxième, puisque j'ai l'impression que le vin blanc raccourcit légèrement le temps de cuisson de la pomme de terre. Donc ne vous privez pas de faire tremper les pommes de terre dans le vin blanc un petit quart d'heure avant de les cuire. Voilà, après il n'y a pas de piège. On fait une première abaisse de pommes de terre. Moi, je l'ai fait dans un saladier à l'envers pour avoir une belle forme hémisphérique. Ensuite, on met les tranches de pommes de terre, les oignons crus, tout ça. Force crème au début ou sinon à la fin si on fait une cheminée.
On le constate à la dégustation. Hein.
Oui,
on va dire que c'est une recette lubrifiée.
C'est ça, c'est tout à fait léger. Prenez pas de risque, n'allez pas faire du saut en parachute derrière. voilà, et sinon, eu égard au problème d'énergie qu'on a en ce moment... C'est pas très conventionnel, mais si vous le souhaitez, vous pouvez ébouillanter les pommes de terre avant de les cuire juste 5 minutes pour raccourcir le temps de cuisson au four. Et après, les deux méthodes sont soit on met de la crème dans les pommes de terre et les oignons avant de mettre la deuxième abaisse.
Allons-y, hein.
Soit, moi je préfère la deuxième version où je mets de la crème liquide dans le trou de la cheminée, au fur et à mesure de la cuisson. Voilà. Donc ça fait quand vous dites que c'est lubrifié, voilà, ça descend tout seul.
Ben ça on va dire que ça tient encore, mais alors c'est superbe ce pâté de patates dont la recette est à retrouver sur franceinter.fr à la page on va déguster. L'autre petit nom, c'est le pâté bourbonnais
oui, ou ça. Le pâté creusois, ou voilà ce qu'on disait entre la Creuse, le Nivernais, dans tous ces coins-là, il y a forcément quelqu'un qui va vous dire non mais il est de chez nous. Et moi je vous dirais que non, il est de chez nous.
Et d'ailleurs, en page 70 de ce très beau livre, Le grand livre des patates aux éditions Flammarion, signé Marie-Laure Fréchet avec ses copines, Bérangère Abraham évidemment et Valérie Lhomme pour les photos. Page 70, il y a une carte de France avec plein de petits numéros qui répertorie finalement les spécialités françaises à base de patates.
Voilà, exactement, j'en ai répertorié une cinquantaine, j'en ai peut-être oublié, je crois pas, j'ai essayé d'être la plus exhaustive possible.
Du gratin dauphinois.
Voilà, bien sûr, mais c'est vrai que...
La Pella.
Aucun territoire n'est oublié. On a des spécialités qui parlent à tout le monde, hein, bien sûr.
La patate, même dans le sud de la France, hein. L'aioli. Pas d'aioli sans patate, n'est-ce pas, Laurent Thomas, qui en fait un excellent.
Voilà, la galette berrichonne, les frites, bien sûr, dans le nord, le hareng pomme à l'huile, le bekoff, les pommes soufflées à Paris, parce qu'il y a Paris a aussi, oui, évidemment, ses spécialités, la pomme ananas.
La pomme pour neuf.
La pomme pour neuf, bien sûr.
La pomme dauphine. Et puis, on va s'arrêter sur une autre spécialité de pommes de terre frites que vous avez dans vos petits récipients devant votre micro, Marie-Laure. Les chips.
Voilà, donc j'ai ramené des chips maison parce que c'est tout à fait possible de faire ces chips. Donc là, elles ont été faites par Bérangère.
Instant chips.
Elles sont, vous entendez, bien croustillantes.
Le problème, c'est qu'on met le doigt dedans et on ne peut plus s'arrêter. En plus, avec cette pointe de sel, elles sont remarquables.
Voilà. Ni trop salée, ni trop grasse, parfaite.
Bon, bah,
c'est quoi ce que tu as dit, une bonne chips?
Quelle
variété?
Là, en l'occurrence, ça a été fait avec de la grilla. Mmh. Effectivement, il ne faut pas qu'elle soit trop grasse, il faut qu'elle garde son croustillant. Et tout est dans la cuisson. Donc, trois paliers de température. Pas de bain comme les frites, mais des paliers de température.
Donc, thermomètre ou friteuse avec
un
thermorégulé.
Mmh. Voilà, donc d'abord 160 pour commencer, oui, un palier à 130, et puis après on remonte.
En fait, et là, vous avez différents formats. Alors, il y a le format gaufrette.
Voilà,
là, il faut
la petite pomme gaufrette, la pomme chips classique et la pomme allumette, on va dire. Enfin, c'est
délicieux. Ça se passe comment, Victor Ders, la pomme de terre à la maison? Parce que, évidemment, on a compris que vous sélectionniez des variétés de pommes de terre. Vous produisez des plants de patates pour les jardiniers, mais également les producteurs de pommes de terre de consommation. Vous en cultivez pour vous aussi, j'imagine, un peu quand même.
Ah oui, bah ça fait partie de notre alimentation, comme tous les Français, je pense. Moi, ma recette préférée, c'est les pommes de terre vapeur saupoudrées de ciboulette ciselée.
Oui.
C'est ce que faisait ma grand-mère et je n'arrive pas à les oublier.
Avec un peu de beurre?
Pas toujours.
Comme ça?
Comme ça.
Et avec les pommes de terre de votre compagnon maraîcher, Justine Knapp, ça se passe comment?
Et j'avoue que c'est aussi à la vapeur, mais moi je mets un petit peu de beurre et un petit peu de fleur de sel dessus. Mais j'aime bien comme ça garde une chair bien ferme.
Très bien. Et on va préciser, Marie-Laure Fréchet, quand même, que vous organisez le championnat du monde de...
De la frite, bien sûr, à Arras, le 7 octobre.
J'en serai le parrain, et j'en suis fier. Et vous avez également créé une confrérie de la frite.
Exactement.
Racontez-nous.
Voilà, la confrérie de la frite qui défend la frite fraîche maison.
Et je vous ai vu dans votre uniforme, vous êtes belle.
Non, mais merci beaucoup.
Aux couleurs noires et...
Voilà, on a voulu un costume un peu moderne. Et puis, comme on ne fait pas des frites avec une grande tauge et du velours comme sont habillées la plupart des confréries, on a effectivement un costume assez moderne, petite casquette, un tablier.
Et on se retrouve demain vers la Madeleine sous Montreuil pour le prix Mange Livre qui décerne un prix, un ouvrage traitant de l'alimentation et de la gastronomie durable. Ce sera demain et on donnera évidemment les résultats dans notre émission dimanche prochain.
Voilà, on attend notre jury de chefs.
Merci beaucoup Marie-Laure. Le grand livre des patates aux éditions Flammarion, variétés, techniques, recettes, conseils. Un très chouette livre. Vraiment, ça fait le tour de la question. Ça fait du bien d'avoir des livres comme ça dans sa bibliothèque. Merci Victor Ders. L'entreprise Bernard, qu'on peut d'ailleurs trouver en jardinerie, 30% de votre production est en bio. Et pas mal des pommes de terre que l'on mange, bah c'est un peu grâce à vous en fait. Voilà, merci beaucoup. La semaine prochaine, une émission entièrement consacrée à, attention, la cacahuète. Et en particulier, la cacahuète qui pousse en France du champ jusqu'à l'assiette. Et puis, je voudrais vous signaler un événement qui aura lieu les 13, 14 et 15 octobre prochains à Uzès, une ville qui m'est très chère, dans le Gard. J'y organise avec ma fine équipe et des forces vives locales, dont la librairie de la Place aux Herbes, la première édition de Saveurs et Savoirs, un festival qui promet de nourrir le corps et l'esprit. Voilà, la gastronomie sera à l'honneur dans toute la ville, à travers des conférences, des démos culinaires, une expo photo, une dictée gastronomique, un concours de boulettes, mais aussi des avant-premières et des projections de films animés par, tiens, l'ami Laurent Delmas de France Inter. Il y aura notamment l'avant-première de La Passion de Dodin Bouffant, le film qui a remporté le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes. On y attend une trentaine d'invités, Anne-Sophie Pic, Pierre Gagnère, Jean-François Piège, Elvira Masson. On fera aussi la part belle aux chefs et artisans locaux. Toutes les infos sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. À dimanche prochain. Si vous avez encore faim,